Studio Tamani, voici nos informations en français.
Ravi de vous avoir retrouvé pour cette première tranche d'information de Studio Tamani. Bonjour et bienvenue au menu de ce journal. Des cars de transport en commun sont bloqués sur l'axe Douanza-Gossi depuis mercredi dernier par des hommes armés non identifiés. Des responsables des compagnies de transport et les populations sollicitent l'aide des autorités. Fin ce mercredi des discussions sur le projet de loi électorale. Le Conseil national de transition se félicite de l'écoute de toutes les forces vives de la nation. Des partis politiques demandent plus d'inclusion. Les populations de la commune rurale du Baguineda, dans le cercle de Kati, souffrent d'une pénurie d'eau. Elles interpellent les autorités face à la situation. Notre envoyé spécial nous donnera plus de détails dans cette édition présentée par Moumine Sendebou avec la complicité technique de nous gérer. Comme bien annoncé, des cars de transport de plusieurs compagnies sont bloqués entre Douanza et Gossi depuis près d'une semaine, selon des sources locales. Cette situation serait due à la menace des hommes armés non identifiés. D'après les mêmes sources, ceci les empêche de suivre leur trajectoire. Les populations des deux localités demandent aux autorités de leur venir en aide. Les détails avec Aïssa Diarra.
Ces cars sont stationnés tout au long du goudron dans la ville de Douanza avec des passagers à bord, confirment des témoignes sur place. Cette situation concerne la route nationale 16 qui relie Sévaré à Gao. Ils ont été freinés par des hommes armés qui entourent les villes de Boni et Nokara dans la région de Douanza, précise-t-il. Les autorités locales et une ONG de Douanza auraient apporté de l'aide aux passagers sur le plan alimentaire, selon un habitant qui a requis l'anonymat. Cette même source affirme que c'est mardi, dans la matinée, des passagers ont décidé de retourner à Sévaré et d'autres ont préféré emprunter des véhicules personnels pour se rendre à Ombori. Certains cars sont également partis à Gao, mais ils soulignent que des cars sont toujours sur place. Inquiets, les populations de ces localités demandent aux autorités de leur venir en aide en sécurisant les personnes et leurs biens. Notons que cette situation intervient dans un contexte où l'insécurité prend de l'ampleur au centre et au nord du pays. Les attaques, les braquages et les enlèvements se multiplient dans ces zones malgré la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali.
Sur le même sujet, à cause de cette situation, nos 40 directions de Gossi sont en arrêt, affirmant un gérant d'une compagnie de transport de la place. Il demande aux autorités de mettre en place des équipes pour exporter tous les véhicules dans des zones d'insécurité. S'il a fond de sécuriser les cars de transport et les passagers, ce responsable de compagnie qui a requiert l'anonymat est au micro de Aïssa Diarra.
C'est inquiétant pour tout le monde, que ce soit les compagnies de transport, les voyageurs aussi.
Mais c'est l'argent des pertes parce qu'on a pris des carburants, on a donné des frais. Puis on a encaissé aussi des voyageurs, leur argent se trouve avec nous. Tant que maintenant c'est une perte pour nous. Et les voyageurs aussi, c'est une perte pour eux aussi. Parce qu'ils sont là-bas, ils sont stationnés là-bas. Problème de nourriture, de l'eau, ainsi de suite. Ça engendre tellement de pertes à la société de transport ainsi qu'aux voyageurs aussi. Bon, ce que nous, on, en tant que transporteurs, on propose aux autorités, c'est juste maintenant que les militaires accompagnent les voitures avec les passagers à l'intérieur, jusqu'à l'intérieur même de la ville de Gao.
8h passées de 3 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le besoin humanitaire au Mali en 2022 est estimé à 686 millions de dollars, soit plus de 380 milliards de francs CFA. Seulement 11% des fonds ont été mobilisés à ces jours auprès des bailleurs de fonds pour la réponse du plan humanitaire. Ces révélations ont été faites ce mardi par le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence. C'était lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, les discussions sur le projet de loi électorale ont pris fin ce vendredi après plus d'un mois de changes au Conseil national de transition CNT. Des sources proches de l'organe législatif actuel estiment que tout a été fait pour rendre plus inclusive et meilleure cette loi une fois adoptée. Toutefois, les partis politiques sont divisés sur cette question d'inclusivité. Le point avec Dramane Maïga.
Selon une source au sein de la commission loi OCNT, tout le monde a été écouté pour parfaire ce projet. Une écoute jugée insuffisante par une partie de la classe politique. Pour Ibrahima Tamega, membre du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, les autorités doivent faire tout pour l'inclusivité totale d'un projet aussi important.
Tout ce qu'on décide, la loi, le processus électoral, les citoyens doivent être sensibilisés. L'inclusivité doit les concerner. En tout cas, c'est ensemble que nous devons nous donner les mains pour à la fois élaborer une loi électorale consensuelle, partagée, acceptée de tous.
Cependant, Nuhum Togo, président du parti Union pour la sauvegarde de la République USR, affirme qu'après ces discussions fructueuses à ses yeux, il faut vite s'unir autour de l'essentiel pour des élections acceptées de tous.
Ces discussions ont permis d'écouter les uns et les autres, les similitudes des points où il y a des difficultés. Maintenant, si les préoccupations des uns et des autres, si la majorité des Maliens pensent que ça prend en compte l'aspiration du peuple malien pour une élection transparente et crédible, je pense que nous pouvons aller vers l'adoption de la loi.
En attendant, les partis politiques et la société civile espèrent un consensus entre les autorités de la transition et la CEDEAO lors de la prochaine rencontre prévue pour le 4 juin, afin d'avoir un chronogramme détaillé des futures élections.
Autre sujet de cette édition, plus de 800 cas de violations et atteintes aux droits de l'homme ont été enregistrés au Mali par la MINUSMA entre janvier et mars 2022. Parmi les victimes, plus de 540 personnes tuées. Ces informations sont issues de la note trimestrielle de la mission onusienne au Mali. La Commission nationale des droits de l'homme, de son côté, regrette l'augmentation de ces violations dans le pays. Toutefois, son président estime que l'État doit renforcer les capacité des forces armées et de sécurité pour lutter contre les terroristes tout en respectant les droits humanitaires. Agui Boubouari, président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali, est joint au téléphone par Juliette Koulibaly.
Nous estimons que la situation est préoccupante et que l'État doit être soutenu et accompagné dans l'effort de lutter contre le terrorisme et de maintenir la paix et la sécurité. On a appris que le gouvernement, à travers le procureur militaire, a engagé une commission d'enquête sur le terrain. Bon, nous restons dans l'attente du rapport de cette commission d'enquête également. Parce que nous avons dit également qu'une chose est de mettre en place une commission d'enquête, une autre est de publier les résultats de cette enquête. J'ai espoir qu'ils vont s'entendre pour que cette mission d'enquête soit déployée, même si elle doit être accompagnée par d'autres structures nationales.
Nous restons dans le domaine juridique. Des juristes et spécialistes de l'éducation regrettent le désordre organisé au plus haut niveau de l'administration, dont les mutations au Mali. Ces observateurs dénoncent une forme de corruption et de népotisme, une situation qui, selon eux, conduit les structures concernées par les affectations à un manque crucial de personnel. Toutefois, ils affirment qu'il serait difficile de structurer le secteur de mutation dans le pays. Reportage
pour la mutation d'un agent recruté affecté dans une structure publique, les textes exigent un avis favorable en premier lieu de son premier responsable. Cette déclaration est du docteur Seydou Idrissa Kanté, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques et politiques. Selon lui, ce dernier est chargé à son tour d'envoyer la demande à la direction des ressources humaines pour avis de la structure d'accueil.
Dans la pratique, c'est aussi bon de retenir un agent qui n'est plus motivé à rester dans une structure. Souvent, le problème se pose. Mais nous sommes aussi dans une situation de souveraineté par nécessité ou bien par des causes publiques. On peut affecter l'agent et informer aussi son premier responsable.
Des propos corroborés par Seydou Loua, enseignant-chercheur. Cependant, il déplore une forme de corruption et de népotisme liée à l'affectation d'agents de l'État.
Doit être motivé. Par exemple, les femmes, souvent, c'est le rapprochement de conjoints. Je pense que les textes autorisent cela. Ils vont à Bamako, ils vont négocier au ministère et ils reviennent avec la décision de mutation. C'est une forme de corruption en réalité, de népotisme.
Même si les textes prévoient que la structure d'embauche doit être sollicitée et acheminer la demande de mutation, il serait si difficile de structurer le secteur, argumente Dr Seydou Idrissa Kanté, enseignant-chercheur à la faculté de sciences juridiques et politiques.
La puissance publique, l'État peut décider pour d'autres nécessités de la fonction publique, parce que n'oubliez pas que tous les fonctionnaires sont à la disposition de la fonction publique, mais c'est souvent un peu difficile lorsqu'il s'agit des agents de l'État. Et souvent, c'est un peu compliqué.
À noter que toutes nos tentatives pour faire réagir le ministère de l'administration territoriale sont restées vaines.
Et n'a-t-il lieu de renforcement des capacités des organisations de la société civile en matière de plaidoirie et de prise en compte de l'inclusion? C'est ouvert hier à Bamako. L'objectif, selon les organisateurs, est de permettre aux participants une meilleure implication dans les différentes structures. Plus d'une vingtaine de femmes et de jeunes prennent part à cette rencontre de 2 jours. Sali Sissoko et Mamadou Sissoko nous donnent plus de détails.
Être mieux outillé pour faire la restitution dans les structures respectives et influencer les décideurs sont entre autres les objectifs recherchés par les initiateurs de cette formation. Ibrahima Traoré, coordinateur de Wadep Mali.
Nous souhaitons que les organisations de la société civile soient outillées pour pouvoir vraiment porter des actions de plaidoyer afin d'améliorer la justice, la sécurité et l'inclusion des couches défavorisées et vulnérables. Aujourd'hui sera consacré au plaidoyer et au lobbying. Et demain sera consacré à la thématique de l'inclusion.
Les personnes vivant avec handicap et autres difficultés qui sont les premières à toucher par cette inclusion participent aussi à cette rencontre. Le but pour elles était de s'enquérir de nouvelles méthodes de travail. Bama Kankane, membre de l'association malienne de petite taille.
Si on parle de plaidoyer, on parle des personnes handicapées. Il en a beaucoup besoin. Je vais réunir mes semblables et je les expliquerai tout ce qui s'est passé. Et je saurai comment mobiliser les autorités maliennes et comment m'expliquer devant eux.
Ces participants invitent les organisations à multiplier ce genre de formation afin de bannir la pratique de l'exclusion dans les structures.
On en vient à notre dossier du jour. Des habitants de la commune rurale de Baguineda, dans le cercle de Kati, sont confrontés à un manque d'eau potable. Pour certains, la situation est due à la saison sèche. D'autres l'imputent à une insuffisance de robinet dans la localité. Les autorités municipales disent être conscientes de la situation. Ainsi, elles rassurent que des mesures sont prises pour renforcer le système de fourniture d'eau potable aux populations. Notre reporter Khalifa Goïta nous fait une immersion à Baguineda.
Kakabougou est l'un des 32 villages de la commune de Baguineda. Aujourd'hui, avoir de l'eau potable est un calvaire. Dans Seni Samake, un habitant explique la situation.
À la mosquée ici, quelqu'un a réalisé un forage, plus la pompe qui existait déjà. Le jeune y passe toute la soirée. Il n'y a pas assez de puits ici, vu que le sol est rocheux. Les puits qui sont ici n'ont pas d'eau. Le manque d'eau, ça nous gêne assez, mais on n'y paie rien. Nous avons besoin d'aide.
À la seule pompe à mais du village se trouvent de nombreuses femmes venues chercher de l'eau. Presque dans la désolation, Bassoum Kone regrette le vécu des femmes, mais surtout des promesses non tenues par des volontaires.
Depuis mon réveil, c'est ma 3e fois ici. Je n'ai toujours pas d'eau. C'est décevant. Nous demandons aux autorités de trouver une solution pour qu'on puisse jouir de notre vie de foyer. C'est insupportable.
Cependant, au centre-ville, notamment à Baguineda Camp, nous croisons Maïmouna Ouedrago. Elle affirme que l'accès à l'eau n'est pas un souci pour elle.
Au niveau du camp de Baguineda, ça va dans l'ensemble. Nos robinets fonctionnent et nos puits sont bien remplis. Ici, on peut dire que ça va.
Les responsables de la mairie de Baguineda estiment que des addictions d'eau sont faites dans plusieurs localités de la commune. Outre, des efforts sont en cours pour soulager les populations. Suleiman Diallo, président de la commission eau à la mairie de Baguineda.
Nous sommes au courant de ça. Ce n'est pas seulement que Kakabougou, on ne peut pas couvrir toute la commune au même moment. C'est un programme de planification. Nous avons des demandes au niveau de la direction régionale de l'hydraulique. Aussi, nous avons prévu des investissements pour le système hydraulique. Donc ça va venir petit à petit. Nous fonctionnons sur des fourrages et Baguineda, au centre-ville ici, il peut y avoir crise, mais il n'y a pas pénurie.
Rappelons que la ville de Mopti aussi vit une pénurie d'eau depuis un certain temps.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour à présent dans la région. Les 10 derniers des 8 otages enlevés le jeudi 19 mai 2022 à Omo, dans la commune de Bundu, dans le cercle de Koro, ont été libérés lundi dernier. Daouda Togo et Youssouf Niagali, agents de Médecins Sans Frontières, ont recouvré la liberté grâce à une négociation entre les ravisseurs et certaines personnes de la localité. Des sources locales précisent que les deux véhicules restent avec les ravisseurs pour le moment. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de Studio Tamani. Je vais tout de suite céder la place à Aïssata Diarra pour le journal Mbamanankan. Notez que vous pouvez réécouter toutes nos informations sur www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Studio Tamani. Des centaines de jeunes Maliens quittent leur localité chaque année dans l'objectif d'avoir une vie meilleure. Ils empruntent le désert, la mer ou d'autres chemins pour atteindre l'Europe au prix de leur âme. Pour des observateurs, la mauvaise gouvernance, le chômage et le manque de perspectives sont entre autres les principales causes de départ de ces jeunes. Notre reporter Mamadou Samassiko a rencontré un jeune Malien qui a vécu cette expérience, suivant son reportage.
Âgé d'environ 34 ans, ce natif de Bamako a, il y a quelques années, pris le chemin de l'exil. Abdoulaye Berthe était avec une centaine d'autres jeunes de diverses nationalités. À partir de la Mauritanie, ils ont emprunté les larges du Maroc pour rentrer en Espagne. Mais ils ne savaient pas ce qui l'attendait, témoigne-t-il.
Arrivé à Mauritanie même, pour partir en Espagne, chacun doit payer 500 000 francs. Depuis qu'on est arrivé à Maroc, le patrouille nous a cherchés là-bas. Dans une petite prison, au nombre de 105 ans, dormir là, ça c'est le problème. Si nous voyons nos jambes là, c'est tellement dégonflé, on dirait un chameur de moto ou bien un chameur de voiture là. Et imaginez-vous, donc on a fait un mois dans la prison marocain.
Complètement abattu par les événements, ce jeune était au début sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais il s'est ensuite rendu compte de la dure réalité. Et face aux défis auxquels il était confronté, affronte-t-il, son vœu était de tout simplement revenir au Berkay sain et sauf.
On a perdu quelques amis, un certain Traoulé et puis un certain Konaté aussi. Bah, ils sont malades, donc le prison qui fait aggraver aussi, et ils ont perdu leur vie. Je pars tous mes frères, si tu n'as pas les moyens d'aller en Europe, il faut rester. L'argent que tu vas t'aller gaspiller là, ça te fait quelque chose au Mali. Il faut laisser le désert. Moi, je déteste. Même mon ennemi, je ne t'encourage pas.
L'association malienne des expulsés, dénommée AME, accueille et tente la réinsertion de nombreux refoulés. Elle estime que l'expulsion n'entame en rien l'envie de repartir de la majorité de ces émigrés. Ousmane Diarra, président de l'association.
Une personne expulsée, dans certains milieux, tu es considéré comme une personne maudite. C'est mal vu. Donc, la plupart de ces migrants qui reviennent, même s'ils n'ont pas pu arriver là où ils ont quitté, ils vont essayer de bouger un peu. Beaucoup de gens sont repartis parce que si tu retournes involontaire, souvent tu es rejeté au niveau de l'entourage familial.
Puisqu'ils n'ont rien à gagner en restant chez eux, donc s'il faut mourir pour avoir de la richesse, ces jeunes n'hésiteront pas, souligne l'analyste Boubacar Boukoum. Il précise aussi qu'il revient aux dirigeants de créer des conditions pour donner de l'espoir à la jeunesse africaine.
Ils n'ont pas le choix que d'aller mourir, soit à Bamako ou ailleurs. Nos concitoyens qui viennent de la brousse à Bamako, on fait tous les métiers qui nous passent sous la main et dans le pire des cas, certains deviennent des délinquants, des brigands. C'est ça la triste réalité. Et à défaut, on s'expatrie. Donc c'est aux dirigeants maintenant de comprendre qu'il faut apporter des solutions à la demande des citoyens pour éviter ce genre de risque.
Il faut souligner que le jeune Abdoulaye Berthe a, depuis son retour, trouvé du travail et fondé une famille. Mais combien comme lui ont eu cette chance? Pas beaucoup, estiment les observateurs. Ils ne sont qu'environ 10% des candidats au départ, précise l'AME. Des statistiques ont démontré aussi que de nombreux milliards de francs CFA sont envoyés chaque année par des Maliens établis à l'extérieur pour soutenir leur famille.